France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, le vendredi de 10h à 11h. Et ce matin, dans cette actualité peu réjouissante, un peu d'air frais, une palette de couleurs dans cette grisaille informationnelle, quelques tableaux qui font plaisir, qui nous stimulent, qui font du bien à notre âme, en compagnie de notre trio d'expertes, la conservatrice générale du patrimoine au Louvre, Dominique de Fonréau, la conservatrice générale du patrimoine au Musée d'Orsay, Sylvie Patry, et l'écrivaine et chroniqueuse culturelle Camille Jounot, des peintures qui nous permettent de mieux voir nos vies, le monde, les paysages ou encore la lumière. Vous pourrez taper le long de cette émission le nom des tableaux cités sur un moteur de recherche pour les regarder en même temps que nous en studio. La liste des tableaux figure déjà sur l'appli et le site Radio France à la page Grand Bien Vous Fasse. J'imagine bien Edouard Hopper les peindre dans une station service d'une banlieue américaine, Sandra Colombo et Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Thibaut.
Bonjour Ali.
Chercheur en philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre punchline philo ?
On va faire danser le cœur et la raison ce matin avec Pascal.
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Comédienne, humoriste, vous remplacez Guillemette Odissino cette semaine.
Tout à fait.
Quel est le menu de votre ciné-thérapie ?
Eh bien écoutez, je vais vous parler d'un film qui donne envie d'y croire, encore, et dont le titre est totalement raccord avec l'émission. Brillant.
Parfait. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
C'est pas simplement quelque chose de sensoriel, c'est vraiment quelque chose qui vous imprègne intellectuellement, mentalement et qui vous accompagne. Mais parce que, évidemment, on entre en dialogue avec soi-même quand on est devant une œuvre d'art. Et j'insiste là-dessus, l'œuvre d'art qui est évidemment d'abord une dimension sensible, elle a une profondeur intellectuelle. On sent que ça pense, ça veut dire quelque chose. On ne sait pas ce que cela dit exactement, mais ça veut dire quelque chose. Et par conséquent, il y a un commerce avec soi-même qui s'enclenche face à une œuvre d'art, qui à mon avis, vraiment salutaire.
C'était l'écrivain et historien de l'art Thomas Schlesser, l'auteur des Yeux de Mona en 2024, au micro de France Inter. Bonjour Dominique de Fonréau.
Bonjour Ali.
Conservatrice générale du patrimoine, chargée de mission auprès de la présidente du musée du Louvre. Bonjour Sylvie Patry.
Bonjour Ali.
Conservatrice générale du patrimoine et déléguée aux célébrations des 40 ans du musée d'Orsay et du centenaire de la mort de Monet en 2026. Bonjour Camille Jounot.
Bonjour Ali.
Créatrice du compte Instagram La Minute Culture, autrice d'un très bon livre richement illustré aux éditions du Chêne, Léonard, Frida et les autres, 8 siècles de peinture racontées en 100 artistes. Dans cette nouvelle édition, 17 nouveaux artistes, Maurice Quentin de la Tour, Corot, Suzanne Valadon, Soulages, Sonia Delaunay ou encore Fernand Léger. Et la semaine prochaine sort chez le même éditeur Ulysse, Athéna et les autres, la mythologie gréco-romaine racontée par la peinture. Que vous inspire ce que vient de nous dire Thomas Schlesser, Dominique de Fonréau, Sylvie Patry, Camille Jounot ?
Évidemment, je trouve ça tout à fait. Enfin, je partage tout à fait ce que vient de dire Thomas Schlesser parce qu'il y a un vrai plaisir à essayer de comprendre et à essayer de comprendre après cette première émotion. En fait, cette idée de se dire ah, mais tout à coup, j'ouvre un monde, des mondes, et qui sont là et qui me parlent à moi parce que c'est moi qui regarde. Et ça, c'est merveilleux.
Camille Jounot.
Oui, ben, on est dans un monde qui est sans arrêt tumultueux et j'aime bien cette idée de commerce avec soi-même parce que finalement, on a peu l'occasion de se retrouver comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on se regarde dans un miroir, on se regarde quasiment pour les autres. Tandis que quand on se regarde dans une œuvre d'art, là, on se regarde vraiment pour soi-même.
C'est beau, ça, de se regarder dans une œuvre d'art. Sylvie Patry.
Non, c'est une belle idée. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'insister sur le fait qu'il y a la question du sensible, de l'émotion, et puis la question peut-être de l'intellect, avec soi-même, mais aussi avec les autres. En fait, je trouve que les œuvres, et regarder une œuvre, notamment quand on va dans un musée ou une exposition, on est relié avec les autres, et c'est aussi c'est personnel et collectif, c'est ça qui est assez beau.
Et nous accueillons la philosophe Laurence de Villers. Bonjour.
Bonjour Ali Rébéi.
Agrégé de philosophie normalienne, vous avez récemment proposé des conférences philo au musée d'Orsay. Alors, dans cette actualité morose, voir de la beauté au musée, ça fait du bien et c'est même un bien cultivé pour vous. Pourquoi est-il nécessaire dans la période que nous traversons d'aller se ressourcer dans ces lieux magiques que sont les musées ?
Alors, je pense qu'il y a d'abord la raison qu'a donnée Thomas Schlesser, c'est que je crois que voir un tableau, c'est toucher du doigt qu'il ne faut absolument pas séparer l'esprit et le corps, les sens, l'émotion et l'intellect. Il y a tout ça dans un tableau. On l'invente pas ce matin, hein. Léonard de Vinci le disait, un tableau c'est una cosa mentale, une chose mentale. Donc il y a déjà ça, se dire qu'on est dans cette unité de notre chair et de notre tête. Et puis je pense, Ali, qu'il faut cultiver les sanctuaires, c'est-à-dire les lieux dans nos vies, dans notre réalité, où les lois sont suspendues, le quotidien est là, mais d'une autre manière, des lieux qui fonctionnent pas comme tout le reste. Je crois que on a parfois une vie trop uniforme et on cultive pas assez le fait de passer des seuils, de se dire que bah là dans un musée c'est pas pareil. Et puis je crois que dans un musée, donc on est à l'abri d'une certaine façon et on explore une autre temporalité. On se rend compte, je crois que tout le monde a fait cette expérience, elle dit. On se rend compte que le temps n'est pas celui qui nous échappe, dont on manque. C'est pas le temps qui passe, c'est un temps profond. Ça fait qu'on peut rester à peine une minute devant un tableau et on a l'impression d'avoir d'y être resté tout un été, des siècles, des millénaires. Et je crois que c'est une autre temporalité et qu'il faut absolument, apprendre à l'explorer.
Dominique de Fonréau.
Oui, moi je partage tout à fait ce point de vue. Je trouve que les musées, ce sont des formidables terrains d'exploration, des chemins de traverse. J'aime bien cette expression qui est une expression d'Yves Bonnefoy, le poète et philosophe. Et cette idée, finalement, d'être quelque part qui est à la fois le réel, mais qui est aussi l'imaginaire. Et il n'y a pas beaucoup de lieux, en fait, dans lesquels il y a cette rencontre si puissante entre la réalité et un imaginaire toujours renouvelé.
Sylvie Patry.
Non, peut-être ajouter aussi que il y a plusieurs moments, effectivement. Il y a le moment où on entre dans le musée, il y a le moment où on rencontre une œuvre d'art, et puis il y a le moment où on a fini la visite, et à mon avis, une rencontre réussie, et le musée et les œuvres sont là pour ça, c'est quand on en sort plus vivant.
Camille Junot.
Oui, moi j'aime beaucoup cette idée de l'art en tant que sanctuaire. Il y a quelque chose de quasi religieux, de spirituel, même quand les œuvres ne sont pas religieuses. Il y a quelque chose qui élève l'âme. Et cette élasticité du temps qui se produit quand on regarde des œuvres, c'est vraiment c'est salutaire, effectivement.
Alors, je vous ai donc demandé de choisir quelques tableaux. Dominique Le Fonréau, vous nous proposez l'automne de Giuseppe Arcimboldo, une huile sur toile peinte en 1573 et exposée au Louvre-Lens. Arcimboldo, né vers 1527 à Milan, est mort dans la même ville en 1593.
Oui, alors j'ai.
Qu'est-ce qu'on y voit ?
Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit, en fait, un profil, enfin, ce qui apparaît comme un profil d'homme, d'homme mûr, on va dire, pas âgé, mais un homme mûr. Mais en fait, si on regarde attentivement, on voit vite, très vite, évidemment, que l'oreille, c'est un cèpe, que le nez, c'est une poire, que la bouche, c'est une châtaigne dans sa bogue, que la barbe, ce sont des céréales.
La chevelure, ce sont des grains de raisin.
Que la chevelure, c'est des grains de raisin, parce qu'on est en automne, hein, alors que je l'ai choisi, je choisis l'automne parce qu'on est en octobre, hein, c'est, voilà, puisqu'il y a les quatre saisons. C'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment bien connu, hein, cette manière qu'a eu Arcimboldo de représenter l'être humain, mais c'était tout à fait étonnant au moment où il l'a fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre, ces œuvres, hein, les quatre saisons qui appartiennent à la collection du Louvre, hein, au département des peintures, et qui sont aujourd'hui, après avoir été restaurées, exceptionnellement exposées dans la galerie du temps du Louvre-Lens, c'est que c'est une commande, et c'est une commande impériale, hein, puisque c'est Maximilien de Habsbourg qui l'a commandé pour en faire don à l'électeur de Saxe, donc à Dresde. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et comme le disait tout à l'heure Laurence, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a tout un enjeu de signification, et de signification qui sont des significations d'ordre sacré et philosophique, puisque représenter les saisons, c'est un enjeu évidemment de temps qui se déroule, hein, ça on le sait bien, mais c'est aussi par rapport à l'empereur lui-même, commanditaire de l'œuvre, dire que d'une certaine manière il gouverne le temps, puisque son empire est alors tellement vaste qu'il a l'idée de la gouvernance de l'ensemble, donc ça c'est évidemment tout à fait intéressant. Et puis quelque chose qui nous concerne tous, c'est que c'est aussi une illustration des âges de l'homme, puisque là on est dans la maturité, et que l'hiver est un vieil homme, et que le printemps et l'été sont des hommes plus jeunes.
Il ressemble un peu à Thibaut de Saint-Maurice.
C'est-à-dire qu'en fait, ce que je regrette un peu pour Thibaut, c'est qu'il n'y ait pas tellement la chevelure en raisin, donc peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, mais bon, enfin, on peut en parler après l'émission. Pour l'instant, ça va pouvoir se trouver. Ouais. Ce qui est assez fascinant, peut-être aussi, pour parler d'aujourd'hui, c'est que ces œuvres sont devenues aujourd'hui, enfin, quand je dis aujourd'hui, au cours du XXe siècle et dans ce début du XXIe siècle, des modèles que tout le monde connaît. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment, et ça, je trouve ça très intéressant, c'est que là, en ce moment, où ils sont vraiment exposés en majesté dans la Galerie du Temps, magnifique Galerie du Temps à Lens, hein. Allez la voir, elle est vraiment formidable. Tout le monde les regarde, à la fois les historiens d'art et les philosophes qui vont y chercher toutes ces méditations, mais les enfants qui comprennent, qui savent ça, parce que finalement c'est devenu aussi, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est l'invention d'un mode de représentation.
Et L'automne d'Arcimboldo, qui est donc visible au Louvre-Lens. Sylvie Patry, une grande exposition permet de découvrir un peintre américain assez méconnu en France, né à Florence en 1856 et mort à Londres en 1925, John Singer Sargent, exposition au Musée d'Orsay jusqu'au 11 janvier prochain. Ça s'appelle Éblouir Paris et vous avez choisi Madame X peint en 1884. Un peintre que j'affectionne tout particulièrement, Sylvie Patry.
Oui, c'est un peintre assez merveilleux, effectivement pas très connu, parce qu'en fait, il y a très peu d'œuvres de lui en France. Et donc, cette Madame X, je l'ai choisie pour plein de raisons. Bon, c'est un très très beau tableau, hein. On voit un grand, ce qu'on appelle un grand portrait en pied. Donc, on voit le personnage, une jeune femme très élégante. Je vais y revenir complètement, enfin, peint entièrement, avec une robe de soirée noire. Elle est de profil. Il y a un contraste très, très appuyé entre la peau très blanche et ce noir, le satin et le velours de sa robe. Donc c'est un petit événement en fait, ce tableau. Il est souvent reproduit, il est très très utilisé dans les magazines de mode. C'est vraiment presque une icône de la mode et du luxe. Et c'est un tableau qui n'était pas revenu à Paris depuis 1884. Donc c'est quand même un petit événement. Il est conservé d'habitude à New York, au Metropolitan Museum. Et donc il est prêté à titre tout à fait exceptionnel pour cette exposition, qui retrace un moment très particulier dans la vie de Sargent, c'est-à-dire le moment où il arrive à Paris en 1874 et le moment où il va en partir justement un peu à cause de ce portrait Madame X. Alors de quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit du portrait d'une jeune femme qui est née aux États-Unis, qui s'appelle Virginie Gautreau, qui est célèbre pour sa beauté. Et Sargent, lui, quand il arrive à Paris, donc il est né à Florence, un peintre d'origine américaine, il a une carrière très internationale, c'est assez typique de ces artistes cosmopolites, comme on dit à l'époque, de façon positive, en Europe, à la fin du 19e siècle. Et Paris, c'est encore la capitale de l'art. Et donc, quand on arrive à Paris, c'est pour éblouir Paris, c'est pour se faire un nom. Et quoi de mieux pour se faire un nom que de choisir un modèle bien introduit, célèbre pour sa beauté, un peu une vedette en quelque sorte. Et cette jeune femme, elle s'est mariée, elle est originaire de la Nouvelle-Orléans. C'est une fortune née des plantations, de l'esclavage, guerre de sécession. Son père, qui était du côté du Sud, meurt à la guerre et donc la famille ruinée. La mère et la fille arrivent à Paris et elle va se marier avec un Français qui est de 20 ans son aîné, et elle va s'imposer dans ce monde parisien. Donc Sargent, en fait, c'est le peintre qui va la voir pour lui proposer, pour lui demander de poser pour lui, encore une fois, pour faire un coup. Donc elle va poser sous ses plus beaux atours, et lui-même est fasciné par sa beauté, et on le sent d'ailleurs quand on voit le tableau, et il s'est beaucoup attaché à ce profil. Il met à peu près une année pour faire ce tableau, et il décide de l'exposer donc au salon. Le salon, à l'époque, c'est un peu la grand messe de l'art contemporain. Ça se tient tous les ans au printemps, les collectionneurs viennent du monde entier, il y a une presse incroyable, et là, scandale. Mais scandale absolu. Pour plusieurs raisons, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va voir dans les critiques, il y a plein de choses qui sont reprochées. Bon, la première raison, c'est que c'est une femme très belle, c'est un peu suspect, et surtout, donc elle est très décolletée, et surtout, la bretelle de sa robe tombe de son épaule. Et ça, ça ne se voit plus. Donc, procès en indécence, ça déteint sur le modèle, on doute de sa moralité, la mère de Virginie Gautreau va dans l'atelier de Sargent en lui disant « Il faut retirer ce tableau, c'est pas possible, trop mauvaise réputation pour la famille. » Il refuse. Autre aspect aussi, c'est que elle est très blanche, elle est très... finalement, il est assez étrange ce tableau quand on le regarde. Et d'ailleurs, Virginie Gautreau était célèbre pour se maquiller complètement, y compris donc le corps. Elle se mettait du blanc sur le corps et elle accentuait les veines aussi par du maquillage bleu. Donc on est aussi dans un monde d'artifice. Si vous regardez le bras, il est un petit peu tordu. Donc en fait, elle est à la fois belle et à la fois très, très étrange. Donc ça constitue aussi la raison pour laquelle on ne comprend pas bien ce tableau. Et puis, plus actuel, hélas, elle est d'origine créole. Et ses origines créoles aussi entrent dans les critiques et les attaques. On attaque moins le peintre, finalement, que la modèle, que cette femme qui est libre, indépendante, mariée, certes, mais avec une vie sociale très brillante, très attachée aussi au cercle républicain. Donc voilà, je trouve c'est intéressant, c'est une belle œuvre, c'est... exceptionnelle qu'elle soit à Paris.
Et elle est donc admirée, Madame X de John Singer Sargent, au musée d'Orsay jusqu'au 11 janvier 2026. J'espère qu'on verra l'homme en rouge. Je ne sais pas si on le voit, l'homme en rouge.
Le docteur Pozzi, oui, qui est un magnifique. Grand médecin, il est dans la même salle.
Je vais y aller.
Voilà. Et puis la bretelle, ensuite, en 1884, après le salon, Sargent récupère le tableau et il corrige, il remet la bretelle à sa place.
Tout à l'heure, Camille Junouf, vous nous parlerez de rythme de Sonia Delaunay. Ça sera juste après la chronique cinéthérapie de Sandra Colombo.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha.
La cinéthérapie de Sandra Colombo cette semaine.
Cher Ali, vous savez ce qui permet de lutter contre la déprime post-rentrée pré-hiver, ne coûte rien mais vaut beaucoup et devrait être remboursé par la Sécurité sociale ? Le sourire. Et qui a le plus beau sourire du cinéma ? Julia Roberts.
Ah, oui.
Ah bah Julia, quand elle sourit, on dirait qu'elle a 76 dents. Versus 32 pour nous, hein, pauvre lambda, je le rappelle. Alors, fatalement, ça rayonne sévère. Moi, je ne connais personne qui reste de marbre quand Julia sourit. J'avais donc envie de vous parler d'elle ce matin. Je suis sûre que le seul fait de l'évoquer convoque la joie et le réconfort dans votre cerveau. Et quoi de mieux que ça, en ces temps où la vie est devenue un article du Gorafi. Alors j'ai choisi de vous parler du sourire de Mona Lisa. On est sur une ambiance cercle des poètes disparus version féminine. Catherine Watson, Julia Roberts, prof d'histoire de l'art, décrite comme une saltimbanque californienne, va effectuer sa première année d'enseignement à Wellesley, université la plus conservatrice du pays, située pas très loin de Boston. Une université exclusivement féminine et exclusivement blanche. Et oui, on est en 1953 dans une Amérique toujours ségrégationniste et très conservatrice. Et à quoi rêvent ces jeunes femmes intelligentes qui usent leurs jupons froufroutants sur les bancs de cette prestigieuse fac ? À devenir de bonnes épouses et de bonnes mères.
Tandis que nos mères avaient été appelées au travail pour défendre la liberté, c'est pour nous un devoir, que dis-je, une obligation, de reprendre notre place au foyer et d'enfanter ceux qui défendront nos traditions à l'avenir.
La devise de l'université de Wellesley est « Non ministrari, sed ministrare ». Ne pas être servir, ne pas être servi, mais servir. Une bonne ambiance à la servante écarlate. Et là, vous vous dites, oh là là, mais attends, Colombo, t'es en train de nous décrire quasiment les USA d'aujourd'hui, là. Comment c'est possible, puisqu'en 2003, quand le film sort en salle, Donald Trump est certes déjà nuisible, mais pas encore avec un grand pouvoir de nuisance. Et c'est là que revoir ce film est une excellente idée. Oui, parce qu'on vit une sorte de retour vers le futur. Hein. Il manque plus que les trends TikTok sur les tradwives et on y est. Alors oui, c'est bien flippant de voir à quelle vitesse on en est revenu là. C'est probablement cette Amérique-là dont rêve Donald Trump quand il dit vouloir « make America great again », une époque de mère au foyer corseté et de père absent car toujours en réunion avec leur jeune secrétaire. Et oui, gagner de l'argent de la famille s'accompagne souvent de coups de canif dans le contrat. Catherine Watson, Julia Roberts, est d'une subversion incroyable, car tenez-vous bien, non seulement elle aime l'art moderne, mais en plus, elle a refusé la demande en mariage de son fiancé. Autant vous dire, elle fait bien tâche, de peinture, bien sûr.
Il y a une centaine d'années, il était inconcevable pour une femme d'avoir un diplôme universitaire. Vous devriez regarder un peu en arrière pour voir le chemin que nous avons parcouru.
Je regrette de vous le dire, mais vu d'où je suis, c'est juste le corset qui a pris une autre forme.
Ah bah, c'est pas facile de lutter contre le patriarcat, hein, même quand on a le sourire de Mona Lisa. Mais on parle de Julia. Et armée de toutes ses dents et de ses convictions, elle va lutter pour faire changer la vie de ses étudiantes et faire bouger leur monde. Et ça, ça donne un sacré courage, même quand Winter is recoming, comme en ce moment. Parce qu'en voyant ce film, en le revoyant, je me suis dit qu'il ne fallait pas se laisser engloutir par la peur. Si on l'a fait une fois, eh ben on peut le refaire. Et même si on n'est pas Julia Roberts, eh ben on est toutes et tous équipés d'un sourire pour éclairer le monde. Alors, à vos dents, prêts, souriez.
Et petite précision, les tradwives, ce que vous citiez, ce sont les épouses très très traditionnalistes.
Très, très conservatrices qui font fureur sur TikTok actuellement. Oui.
La cinéthérapie de Sandra Colombo a podcasté et a partagé depuis l'appli Radio France. Sandra, votre spectacle Que faire des cons, c'est au point virgule le mardi à 21h. Permettez-moi d'adresser un salut amical à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui a œuvré en coulisses pendant 45 ans à la Maison de la Radio. Charlotte Saval, entrée en 1979 à Radio France pour un job d'été, qui n'en est jamais reparti. Charlotte Saval, notre attachée de presse au sein de la direction de la communication de France Inter. Difficile à croire que cette jeune femme perchée sur des talons de 15 cm parte à la retraite. Merci Charlotte pour ton professionnalisme, ton sourire, ton élégance qui nous manquera à France Inter. Bonne retraite Charlotte. Dans un instant, continue à explorer quelques tableaux qui font du bien dans ce monde de brut. On se retrouve juste après avoir écouté Fleetwood Mac, Dreams, une chanson de 1977. 10h27 sur Inter. Fleetwood Mac interpréter Dreams.
Ça, c'est sûr qu'ils en avaient du talent, les impressionnistes, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Argenteuil, mais c'est une horreur, Argenteuil.
Ali Rebéi.
Eh ben déjà, rien qu'arriver à peindre cette ville pourrie d'Argenteuil et qu'elle se retrouve maintenant dans un musée.
Grand bien vous fasse.
Chapeau bas, les impressionnistes.
Sur France Inter.
Mon tableau préféré. Il n'y a pas vraiment un tableau préféré. La Madone Sixtine de Raphaël, par exemple, est un de mes tableaux préférés, mais je pourrais dire aussi, curieusement, la Joconde, hein, c'est bizarre, mais je pourrais dire aussi bien, je pourrais aller du côté du XVIIIe siècle. Je trouve que le Verrou de Fragonard est un tableau tout à fait extraordinaire et fascinant, où, en descendant encore dans le temps, l'origine du monde, de Courbet, quel beau tableau. Et puis un des rares tableaux qui m'est vraiment touché, c'est une esquisse de la danse de Matisse. Donc un tableau préféré, disons qu'il y a des peintures qui touchent ou qui me touchent plus que d'autres, qui m'ont touché plus que d'autres, et je sais qu'il y en a qui ne m'ont pas encore touché, mais qui un jour ou l'autre vont me toucher.
On ne se lasse pas d'écouter l'historien de l'art Daniel Arras en 2003 sur France Culture. Grand bien vous fasse, et quelques tableaux qui font du bien, choisis par nos trois fines expertes, Dominique de Fonréau du Musée du Louvre, Sylvie Patry du Musée d'Orsay, Camille Jounot, autrice de Léonard, Frida et les autres. Camille, vous nous proposez d'admirer Rythme de Sonia Delaunay, peint en 1938 et visible au Musée d'Art Moderne de Paris. Sonia Delaunay, née en Ukraine en 1885 et morte à Paris en 1979, et l'œuvre de Sonia Delaunay profondément liée à celle de son mari, Robert Delaunay.
Oui, absolument. J'ai choisi cette œuvre déjà pour son format. Ouais. Elle est gigantesque. Il faut imaginer qu'elle fait pratiquement 6 mètres de haut et plus de 5 mètres de large. Donc on peut y plonger comme dans une piscine. Donc on revient vraiment à cette immersion, à cette idée de commerce avec soi-même quand on regarde ce genre de format.
Qu'est-ce qu'on y voit ?
On y voit des cercles. C'est un ensemble de cercles qui se répondent les uns les autres, de cercles concentriques. Et en même temps, au milieu, on a un axe vertical autour desquels ces cercles sont comme tressés. Et c'est vrai que cette peinture, elle a deux maîtres mots, c'est à la fois l'ordre et le mouvement, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça bouge énormément, il y a de la couleur, ça vit, ça pulse, on a cette impression de, vous savez, quand on jette un caillou dans l'eau et que ça fait des ronds, on a vraiment cette idée du mouvement et de la vie, et en même temps, il y a quelque chose de très stable autour de cet axe vertical qui structure cette peinture. Et ces cercles-là, bah, vous l'avez dit, en fait, l'œuvre de Sonia Delaunay, elle est très liée à celle de son mari. Alors, c'est vrai que normalement, j'aime pas forcément ramener une artiste à son mari, mais dans le cas de Sonia et Robert Delaunay, c'est quasiment impossible, tellement ils ont travaillé ensemble. Ils se rencontrent en 1908 et ils ne se lâchent jamais. Robert Delaunay dira « nous sommes aimés dans l'art », qui est comme une très belle façon d'évoquer leur relation et à la fois ce qu'ils produisaient. Et donc ces cercles-là, on les voit pour la première fois dans l'œuvre de Robert Delaunay en 1912, mais la construction en tresse comme ça autour d'un axe, ça va arriver chez Sonia Delaunay en 1923, et ça va arriver dans une esquisse de costume. Parce que ce qui est intéressant chez Sonia Delaunay, c'est qu'on connaît la dimension picturale de son œuvre, toute la peinture, mais à côté de ça, c'est une artiste pluridisciplinaire qui va s'intéresser à la mode. Elle aura une boutique de mode à Madrid d'ailleurs, et elle va s'intéresser à la danse, hein, parce que pour elle, c'est aussi le rythme, c'est la danse, et c'est étroitement lié à sa peinture.
Et comme vous le rappelez très bien dans votre livre, Sonia Delaunay revendique le fait que l'art abstrait peut également être sensuel.
Oui, tout à fait. Il y a cette idée. Enfin, le motif disparaît. Donc, enfin, la figuration disparaît. Donc, on est dans la proximité avec l'œuvre. Et effectivement, on peut ressentir plus directement l'émotion. Il faut juste passer cette barrière de la figuration et on est au contact de l'artiste.
Rythme de Sonia Delaunay à admirer au Musée d'Art Moderne de Paris. Laurence Villers, philosophe, encore avec nous. Quel est le tableau que vous aimez regarder en ce moment ? Je crois que c'est le grand jardin de Bonnard visible au Musée d'Orsay.
Mais vous me connaissez
Sylvie
tellement
Patry,
bien.
Sylvie Patry acquiesce.
Ah oui, alors on est à Orsay, le grand jardin de Bonnard, c'est aussi un tableau imposant, et quand on arrive dans la salle où il est accroché, on est immédiatement capté, c'est comme il est vert, on ne voit que du vert, on n'y voit rien, on voit que du vert, et c'est uniquement végétal, hein, c'est un jardin, donc il y a que des arbres et de l'herbe, et en réalité on a l'impression d'être dans la mer, on a l'impression d'être dans une rivière, c'est aquatique, voilà, c'est du végétal aquatique. Alors, comme toujours avec Bonnard, ça semble très simple, mais il faut se méfier des créateurs qui semblent simples, parce que c'est très compliqué. En réalité, ça semble anecdotique, hein, au premier abord. Il y a des enfants qui jouent dans l'herbe et qui ramassent des pommes. Il y a un chien, il y a des poules, il y a des arbres, donc. Et puis, il y a une femme en noir qui semble ramasser son linge, qu'elle a dû mettre à sécher. En réalité, quand on y regarde de plus près, les espèces des arbres qui se trouvent dans ce jardin, ça paraît un peu invraisemblable. Il y a à la fois des bouleaux, le pommier qui donne des pommes, il a le tronc d'un bouleau, justement. Il y a des sapins. Donc, on se dit, c'est curieux d'avoir tout ça dans un même jardin. Le chien, il ressemble à un loup, furieusement un loup, et il côtoie des poules qui n'ont pas l'air d'avoir peur du tout de lui. La femme est en deuil, et pourtant, elle tient un drap blanc. Vous me voyez venir, hein. On a presque l'impression qu'elle ramasse le linceul de la mort, que ça y est, c'est le matin ou le printemps, et en fait on peut pas dire, c'est n'importe quelle heure ou une sorte d'heure éternelle, c'est n'importe quelle saison ou alors un printemps éternel, et puis on a envie de se dire, bah c'est le paradis, non? Et ben je crois que Bonnard c'est plus compliqué, parce qu'il nous dit le paradis, il est pas perdu, il est pas derrière nous, il est pas à venir, le paradis c'est où je suis. Et là cette femme en deuil, et elle est en fait drapée de blanc plutôt que de noir, les espèces coexistent existe en paix, c'est un monde réconcilié, c'est le bonheur, c'est là où je suis. Et moi, je dois dire qu'à chaque fois que je vois ce tableau, je me dis oui, le bonheur est possible.
Courez voir le grand jardin de Bonnard au musée d'Orsay à Paris. Merci beaucoup, Laurence Villers, d'avoir été avec nous ce matin. Dominique de Fonréau, l'exposition David commence le 15 octobre au musée d'Orsay jusqu'au 26 janvier. Jacques-Louis David, né en 1748, est mort il y a exactement 200 ans. Jacques-Louis David, qui a créé des images iconiques, Marat assassiné, Bonaparte franchissant les Alpes, le sacre de Napoléon, évidemment. Et vous avez choisi le Serment des Horaces.
Oui, le Serment des Horaces, parce que... alors, c'est un tableau qui est peint avant la Révolution française. Hein, il est peint en 1784. David est déjà un artiste reconnu. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit, en fait, trois groupes de personnes. Hein, à droite, trois jeunes hommes habillés à l'antique manière de l'Antiquité romaine, donc avec des toges, casqués, qui lèvent le bras, qui prêtent serment. Au centre, un homme plus âgé qui a leurs armes aussi et qui leur tend. Et puis, à l'extrême droite, un groupe de femmes ces femmes sont assises et elles sont accablées par une forme de chagrin très grand. C'est un tableau absolument extraordinaire parce que c'est un tableau qui puise à l'Antiquité, à un moment donné où David cherche à renouveler l'art de la peinture. Et en même temps, c'est un tableau qui est extrêmement moderne à la fois par la posture de l'artiste, hein, parce qu'il a ensuite exposé le tableau dans son atelier, donc il s'est affranchi hein, d'une certaine manière des codes de l'exposition de son temps, et puis moderne parce qu'il invente un instant qui n'existe pas dans le théâtre de Corneille, hein, qui a représenté effectivement la fameuse lutte entre les Horaces et les Curiaces, donc dans la Rome antique, inspirée des historiens romains. Il invente cette idée du serment dont on imagine que les trois frères prêtent serment à leur père de dire qu'ils vont vaincre jusqu'à la mort, en fait. Hein, la mort peut aller jusque-là. Et ça lui permet d'avoir quelque chose d'une grande force, hein, parce qu'on voit bien la tension qu'il y a entre les jambes et les bras des frères et du père hein, qui se font face. Il y a quelque chose d'extrêmement tendu. Mais le coup de génie, et que moi je ne me lasse pas de regarder, c'est un de mes tableaux préférés, je dois dire, j'aime beaucoup ce tableau, c'est qu'en fait, la scène ne se réduit pas à ça, à cette tension-là. La scène, il y a à droite, comme je l'évoquais, le groupe des femmes qui occupent la même place que chacun des autres groupes, la même place, et les femmes qui sont effectivement dans la désolation, ce sont la mère, la sœur, les épouses hein, des Horaces, et qui savent ce qui est en train de se jouer, et qu'évidemment, elles vont perdre fils, époux, frères. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que David nous dit là que le courage, que l'exemplum virtutis, hein, cet exemple de la vertu, c'est à la fois le courage militaire, viril, mais le courage, c'est aussi le rapport à la fiction et aux sentiments. Et ce tableau s'est fondé sur un magnifique ensemble de dessins remarquables, notamment du groupe des femmes, qui sont parmi les plus belles choses qui ont jamais été dessinées. Hein, c'est, à mes yeux, c'est aussi beau que les draperies de Léonard qu'on évoquait tout à l'heure, qui vont être exposées aussi dans l'exposition du Louvre, qui est portée par mon collègue Sébastien Allard et qui l'ouvre mercredi prochain. C'est un moment à ne pas rater. C'est l'invention de la modernité.
Le serment des Horaces de Jacques-Louis David a admiré au cours de cette exposition jusqu'au 26 janvier au musée du Louvre. Sylvie Patry, vous nous conseillez une autre exposition. C'est l'exposition Correspondance au musée Cognac-Gé à Paris. Correspondance, par exemple, entre l'Odalisque peint par François Boucher en 1743 et Sleepwalker d'Agnès Turnauer en 2013. Agnès Turnauer, qui est une peintre franco-suisse née en 1962 à Paris. Pourquoi cette expo Correspondance au musée Cognac-Gé pour les Parisiens, encore une fois?
Alors, pour les Parisiens, mais pour tout le monde, hein, c'est un petit musée de collectionneurs, pas très loin du musée Carnavalet, qui est dédié au XVIIIe siècle. Et donc, Saskia Holmes, qui s'occupe de ce musée, a décidé d'inviter Agnès Turnauer. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence, on parlait de beauté, on peut aussi parler d'humour. Et donc, tout est là, en fait, dans cette exposition, puisqu'Agnès Turnauer a décidé donc d'introduire ses œuvres, de dialoguer, de correspondre avec ce XVIIIe siècle. Et il y a des moments très assez formidables. Et cette correspondance, elle est fondée déjà sur un point de vue d'Agnès Turnauer qui me semble très juste. On parlait du regard tout à l'heure. Et elle écrit dans l'exposition: une œuvre est plus contemporaine du regard que l'on pose sur elle que de l'époque où elle a été produite. Et je trouve ça très fort. Et ça justifie aujourd'hui que Dominique vous parle d'Archimboldo ou de David. Avec notre regard d'aujourd'hui. Et parmi les confrontations qu'elle a créées dans ce musée dédié au XVIIIe siècle, il y en a une qui est à la fois très forte, très, très subtile, très amusante, et on a l'intellect et le corps dont on parlait tout à l'heure. C'est donc l'Odalisque de François Boucher, et dans l'expo, vous trouvez aussi une série d'œuvres d'Agnès Turnauer qui peut être un peu plus familière au grand public, qui sont des œuvres où elle a inversé les genres, et donc François Boucher devient Françoise Boucher, vous avez Emmanuel Le Kant, et donc voilà, Agnès avait fait toute une série en fait de portraits comme ça où le genre est inversé. Donc d'un côté François Boucher qui nous représente une odalisque, donc une jeune femme dévêtue, dont les fesses sont offertes au regard du peintre et du spectateur, et de l'autre une autre femme nue, mais cette fois c'est Agnès Turnauer dans son atelier de dos, et son corps est recouvert d'une grille d'écriture, de mots qui renvoient tous au vocabulaire de l'atelier. Donc on a effectivement à la fois une réflexion sur le corps de la femme, le corps médium de la peinture avec Agnès Turnauer, le corps plutôt offert, la femme objet, la femme actrice, la femme artiste. Et d'ailleurs, dans cette exposition, un certain nombre de tableaux, de portraits rendent hommage à ce moment du XVIIIe siècle qui a été un peu décrit par une historienne, une spécialiste de la période, comme une parenthèse enchantée pour les femmes. Et donc, on y découvre des portraits d'intellectuels, de scientifiques, comme Émilie du Châtelet, qu'on a longtemps réduite à sa liaison avec Voltaire. Mais qui était une grande mathématicienne.
Correspondance, l'exposition Correspondance est au musée Cognac-Gé en ce moment à Paris. Alors Camille Jounot, vous avez choisi un tableau du Caravage. Le Caravage, né en Italie en 1571 et mort en 1610. Et ce que vous avez choisi, c'est le bouclier à tête de méduse, peint vers 1595-98 et visible à la Galerie des Offices à Florence. Bouclier à tête de méduse.
Oui, alors il faut se rappeler un petit peu du mythe de Méduse. Alors Méduse est une gorgone, donc c'est des créatures affreuses avec des cheveux en serpent. Et en fait, chez Hésiode, dans la Théogonie, elles sont mentionnées comme trois sœurs, donc Sténo, Yalé et Méduse. Et Hésiode va expliquer que Méduse est la seule qui est mortelle. Chez Ovide, on a une autre interprétation. Il fait de Méduse une jeune femme qui a une très belle chevelure. Et en fait, elle est évidemment poursuivie par les hommes de leurs assiduités, mais aussi par les dieux. Et en fait, Poséidon va la coincer dans un temple d'Athéna et la violée, comme ça arrive souvent dans la mythologie. Et en fait, Athéna, très offensée qu'on ait souillé son temple, se venge sur Méduse. C'est injuste, mais c'est la mythologie, c'est comme ça. Et elle la transforme en gorgone. Et donc, Persée, le héros Persée, va être chargé par le roi Polydectès de tuer Méduse. Et pour cela, il a un bouclier qui la protège de son regard, parce qu'elle a un regard qui vous pétrifie, qui vous change en pierre. Et donc, il se cache derrière ce bouclier qui reflète finalement... c'est un miroir, en fait, et qui permet de se protéger de ce regard. Et en fait, Caravage, on ne sait pas en fait s'il peint le moment où Persée tranche la tête de Méduse, parce qu'on voit cette tête sanguinolente, mais en même temps, il peut aussi avoir peint le bouclier d'Athéna, puisque Persée va offrir la tête de Méduse à Athéna, elle l'aura fixée sur son bouclier. Donc il y a déjà un double sens dans cette œuvre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on connaît l'histoire de Méduse d'après Ovide, on peut aussi se demander si ce que peint Caravage, c'est aussi peut-être la détresse. Parce que comme Méduse, elle vous pétrifie de son regard. Peut-être que cette femme transformée ne s'est jamais regardée ensuite dans un miroir, et peut-être que le moment où Persée lui tranche la tête et qu'elle là, elle se découvre dans le reflet du bouclier. Peut-être que dans sa colère, en fait, si on regarde bien, il y a peut-être plus que de la colère, il y a peut-être de l'effroi. Et en fait, ce qui m'intéresse, puisque là, on est en train de parler de peintures qui font du bien, celle-ci est monstrueuse, mais en même temps, elle nous invite peut-être à contempler notre propre monstruosité, nos propres défauts et notre propre finitude. Et c'est une œuvre que je trouve extrêmement touchante.
Le bouclier à tête de Méduse du Caravage, visible à la Galerie des Offices à Florence. Dominique de Fonréau, vous avez choisi l'un de vos peintres fétiches, Jean-Auguste Dominique Ingres, La baigneuse à mi-corps, peint en 1807. Ingres, né en 1780 à Montauban, mort à Paris en 1867. Son tableau le plus célèbre peut-être, c'est la grande Odalisque. Donc, La baigneuse à mi-corps.
Oui, en fait, c'est une œuvre que je voulais... vraiment, dont je voulais vraiment parler aujourd'hui parce que elle était dans la collection d'un peintre qui s'appelait Léon Bonnat, et le musée Bonnat à Bayonne va très bientôt rouvrir, parce qu'on a parlé beaucoup de Paris, mais là, c'est pour dire qu'à partir du 27 novembre, le musée Bonnat, qui est fermé depuis un peu plus de 15 ans, va rouvrir, et que cette magnifique baigneuse à mi-corps, hein, qui est une des variations d'Ingres, hein, sur ces odalisques et ces différentes femmes dénudées, hein, puisque c'est une thématique qui a occupé le peintre du milieu des années 1810 jusqu'au bain turc peu de temps avant sa mort. Et c'est un des grands chefs-d'œuvre de ce musée Bonnat, où il y a une collection absolument extraordinaire, à la fois d'Ingres, de David, de Géricault, mais aussi de Goya, de Rubens, de Gréco, enfin une collection absolument sublime. Et je pense que, voilà, je voulais souligner que ça rouvre bientôt, et que la baigneuse va être mise en avant particulièrement dans cet ensemble-là. Donc ça fait du bien, un musée qui ouvre, ça fait du bien aussi, parce que l'ambition de ce musée, ça va être de renouveler un peu la vision de l'histoire de l'art, et justement de partir par rapport aux émotions, par rapport à une déambulation qui n'est pas complètement chronologique, mais qui joue sur les différentes représentations du corps.
Donc ce sera au musée Bonnat de Bayonne.
De Bayonne, à partir du 27 novembre, donc très bientôt.
Vous pourrez donc admirer La baigneuse à mi-corps de Jean-Auguste Dominique Ingres. Sylvie Patry, vous avez choisi Esther, choisie par Assuérus, de Botticelli et Lippi, et ça a été peint en vers 1480. Esther, choisie par Assuérus, par Botticelli et Lippi.
Oui, c'est un tableau qui est très beau, qui est conservé à Chantilly, donc on sort de Paris, et qui n'a pas bougé. On parlait tout à l'heure d'un tableau qui vient de New York tout à fait exceptionnellement depuis plus d'une centaine d'années. Là, c'est un tableau, au contraire, qui n'a jamais bougé depuis plus de 100 ans, puisque il est exposé dans ce musée, le musée Condé, d'un grand collectionneur du 19e, le duc d'Aumale, qui l'a placé dans ce qu'il a appelé un sanctuaire. Donc il y a ce beau tableau de Botticelli et de Lippi, entouré de deux tableaux de Raphaël. Et donc, ça nous raconte un moment de la vie d'une femme forte, Esther, le moment où elle va être choisie pour épouse par ce roi Assuérus, que l'on voit au milieu de la composition. Et il y aurait plein de choses à dire sur ce tableau, qui en fait, à l'origine, n'est pas un tableau, hein, c'est un panneau d'un coffre, des coffres de mariage qu'on offrait dans des familles, évidemment, patriciennes, qu'on offrait à la mariée, et qui décorait la chambre des époux. Donc, on est à Florence, seconde moitié du XVe siècle, ces grands artistes que sont Botticelli et Lippi, et on retrouve plusieurs scènes de l'histoire comme une bande dessinée dans ce tableau tout en longueur, et puis un jeu très subtil sur l'architecture, tout un système de boîtes. C'est le moment où on découvre, on maîtrise la perspective, et donc les artistes font preuve de virtuosité. Et puis comme c'est Botticelli, il y a beaucoup de grâce, beaucoup de drapés, les jeunes femmes qui défilent devant Assuérus semblent danser, c'est à la fois du ballet, du théâtre, et c'est beau.
Et donc on peut admirer ce tableau de Botticelli et Lippi, Esther choisie par Assuérus, au musée Condé du château de Chantilly, dans l'Oise. Tiens, pour terminer, Sandra Colombo, vous avez choisi Cheval blanc, gazelle, peint par Henri de Toulouse-Lautrec en 1881.
Et oui, parce que
Cheval blanc, gazelle.
Parce que c'est un tableau qui est qui est déjà magnifique et qui est
Qu'est-ce
au musée.
Qu'on y voit ?
On y voit un cheval, pas en entier. On y voit, comme dirait Thibault, le tableau n'est pas tout à fait fini. on voit sa tête et son encolure. Et moi, qui suis montée à cheval beaucoup, je trouve que ce tableau est merveilleux parce qu'il a. Moi, je sens l'odeur du cheval qui est très particulière. Et chaque fois que je vois ce tableau, j'ai cette odeur qui revient. Et on sent, je trouve qu'on sent la texture du cheval. En fait, on a l'impression que si on le touche, il va être chaud, il va être vivant. Et je trouve que Toulouse-Lautrec a cette façon incroyable de rendre le mouvement. On le connaît notamment pour la goulue, etc. Et les danseuses, elles bougent. Et lui aussi, ce cheval, il bouge.
Où peut-on le voir ?
Alors justement, c'est ça qui est très intéressant. On le voit au musée Toulouse-Lautrec à Albi. Musée magnifique, vraiment, je vous encourage à aller à Albi, parce que déjà c'est le sud-ouest, on trouve que c'est la plus belle région du monde, Ali et moi,
c'est
évidemment. Mais c'est une ville magnifique, le musée est magnifique, il y a énormément d'œuvres qu'on ne connaît pas, et Toulouse-Lautrec, ça n'est pas justement que la goulue.
Dominique de Fonréau.
Rien à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, je partage le point de vue de Sandra par rapport à Albi, et ne pas oublier que le musée est au pied de la cathédrale,
ah
et
oui,
qui est certainement
magnifique.
Sainte-Cécile d'Albi, c'est peut-être la plus belle cathédrale de France.
Cheval blanc gazelle à voir au musée Toulouse-Lautrec à Albi. Dans un instant, c'est la punchline philo. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. En attendant, on écoute Sam Sauvage, La fin du monde. Sauvage, la fin du monde.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dû en mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Mais qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ? Si.
Ben, si.
Alors, mon cher Thibaut de Saint-Maurice, ce matin, vous vous intéressez à la plus célèbre des pensées de Pascal, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ».
Mais oui, Ali, parce que j'adore que Blaise Pascal, un grand mathématicien et puis inventeur de la calculette, nous dise pourtant qu'il y a des choses qui ne se calculent pas. On est au milieu du XVIIe siècle et Blaise Pascal est un homme de tension. Tension entre la rigueur de ses démonstrations mathématiques et l'élan de ses pensées philosophiques. Tension entre sa foi chrétienne et sa rationalité scientifique. Tension entre ce qu'il appelle le cœur, donc, et ce qu'il sait de la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Voilà la formule qui résume bien toutes ces tensions et qui veut d'abord dire tout simplement que notre raison peut démontrer bien des choses, mais pas tout. Alors pour bien comprendre ce nouveau partage, il faut revenir sur le sens des mots. Pascal s'amuse des doubles sens et des clairs-obscurs. Quand il parle de la raison, il parle de la rationalité logique, d'une part, celle des mathématiques par exemple, qui fait que tout le monde comprend que 2 et 2 font 4. Mais quand il parle des raisons du cœur, il parle des motifs intimes, propres à chacun. Et quand Pascal parle du cœur, il ne parle pas de l'organe dont le battement fait circuler le sang dans notre corps. Il ne parle pas non plus de ce cœur amoureux qui est la source de nos élans ou qui est brillant quand on est quitté.
Le cœur, pour Pascal, c'est plutôt une autre manière de connaître.
Oui, exactement. C'est une intuition qui saisit d'un coup des évidences premières et qui s'impose à nous. Et c'est aussi une volonté qui décide en nous. Alors vous allez voir, on explique. On a la raison qui bâtit des théories et des démonstrations et qui connaît des vérités logiques et scientifiques. Et puis il y a le cœur, donc, qui saisit les vérités premières. En maths, par exemple, on peut démontrer que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés grâce à la raison. Mais comment voulez-vous démontrer que par un point extérieur à une droite, il ne peut passer qu'une seule autre droite parallèle ? On le sait, on le sent immédiatement. Alors pour celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas que des bons souvenirs avec les maths, comment voulez-vous démontrer que vous aimez vos enfants, ou que vous existez, ou que vous préférez passer vos vacances à la montagne et non pas au bord de la mer ? Il y a donc deux manières de connaître la vérité, deux modes de connaissance, par la raison et par le cœur. Et ce que la raison ne peut pas connaître, le cœur peut le connaître sans que cela soit complètement arbitraire, mais parce que cela relève d'une plus forte évidence, c'est cela. Les raisons du cœur. Mais alors attention, les raisons du cœur n'excusent pas tout et je suis sûr que Pascal nous déteste régulièrement pour cette tendance que nous avons à le citer pour justifier les inconstances de notre cœur et le grand bazar de nos vies amoureuses. Hein, vous savez, ce fameux message qui dit « Désolé, le cœur a ses raisons ». Voilà, il faut plutôt prendre cette pensée comme une invitation à être humble. Notre raison ne peut pas tout, elle n'est pas l'unique chemin vers la vérité, elle est même impuissante à expliquer certaines vérités, ce pourquoi nous avons besoin du cœur. Mais attention aussi, car notre cœur peut se tromper, il est particulièrement sensible à nos désirs, à notre imagination et au regard des autres, c'est pourquoi nous avons besoin de notre raison. Voilà, la raison mesure, calcule et démontre, le cœur sent, aime et décide ce qui vaut la peine d'être vécu. S'en remettre uniquement à la raison serait se priver d'un moteur essentiel, mais s'en remettre uniquement au cœur serait se passer du frein qui nous évite de faire n'importe quoi, Sandra. Il y a des choses qu'on ne saura jamais prouver, mais qu'on peut éprouver, et entre les deux, il y a nos doutes, nos contradictions, nos zones d'ombre, mais c'est aussi là, dans cet espace, entre le cœur et la raison, que l'on trouve le moyen de progresser dans notre compréhension de nous-mêmes, des autres et du monde.
Je sens, Sandra Colombo, que vous auriez adoré avoir Thibaut de Saint-Maurice comme prof de philo en terminale.
Non, j'aurais adoré avoir Thibaut de Saint-Maurice à la maison, toujours.
Voilà, les punchlines de la philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas, ce soir à 20h, l'heure philo avec notre camarade de Patricia Martin. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Sandra. Merci Dominique de Fonréau. L'exposition David, c'est à partir du 15 octobre au Musée du Louvre. Merci Sylvie Patry. L'expo John Singer Sargent, c'est jusqu'en janvier prochain. Je recommande le magnifique catalogue publié chez Gallimard et Musée d'Orsay. Ça s'appelle Éblouir Paris. Merci beaucoup Camille Jounot. La nouvelle édition de Léonard, Frida et les autres, c'est publié au Chêne. Un cadeau de fin d'année idéal. Merci à Nathalie Romero à la programmation de cette émission avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Claire Destacan pour la réalisation, à Valentine Chedebois pour la programmation musicale, à la technique ce matin, Loïc Frapsos. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron, et lundi dans le MAG de la vie quotidienne à 10h30 dans la grande matinale. Où en est-on avec le Covid en cet automne 2025?